ministre, bonsoir. Certaines provinces déclarent anticonstitutionnel l'arrêté interministériel portant en suspension d'un certain nombre de taxes, notamment celles sur le produit agricole. C'est le cas de la province du Bandundu qui estime qu'elle continuera à percevoir cette taxe, étant donné qu'elle relève de la compétence exclusive des provinces et non du gouvernement central. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais. De ce mercredi 9 juillet 2014, et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Daniel Boulungizi. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Vous êtes conseiller fluvial et lacustre du ministre des Transports et Bois des Communications du gouvernement central. Bonsoir.
Bonsoir.
Maurice Nabaola, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Bonsoir. Monsieur Nabaola, vous
bonsoir,
êtes en ligne.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Il est aussi analyste économique. Bonsoir Israël.
Bonsoir.
Merci de nous trouver partenaire RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au Bandundu, l'Assemblée provinciale déclare anticonstitutionnel l'arrêté interministériel portant suspension d'un certain nombre de taxes, entre autres la taxe sur les produits agricoles. Pour cette Assemblée, la province continuera à percevoir cette taxe car elle relève de la compétence exclusive des provinces et non du gouvernement central. Fabien Kamizi nous en dit plus.
C'est à l'issue d'une motion incidentielle présentée par un honorable député au cours d'une plénière la semaine dernière que l'Assemblée du Bandundu a pris cette position. Cela après l'analyse du contenu de l'arrêté interministériel supprimant cette taxe sur les produits agricoles. Selon le président de cette Assemblée provinciale, Boniface Ntoua, cette taxe sur les produits agricoles est légale dans la province conformément à l'édit numéro 005 du 30 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de la brigade des recettes du Bandundu Berbe en sigle. Selon la même source, cette taxe sur les produits agricoles a été renforcée par l'arrêté du 20 novembre 2009 portant mesures d'application relatives aux impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la province par la Berbe. Donc, pour cet organe délibérant du Bandundu, la province doit continuer à taxer des produits agricoles qui sortent de sa province.
Mise en garde sévère contre les fonctionnaires de l'État qui continuent à percevoir les 38 taxes fluviales et lacustres illégales déjà supprimées. Le gouvernement a adopté des mesures coercitives contre tous ceux qui résistent à l'application de ces décisions. Au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée ce mercredi à son cabinet, le ministre de la Communication et Média fait savoir qu'il vont purement et simplement perdre leur emploi. D'autres sanctions vont jusqu'à l'emprisonnement. Lambert Mende au micro de Jeff Ngoy.
Il y a de la résistance, c'est vrai. Nous recevons des rapports. Des gens croient qu'ils peuvent vivre comme hier sur le dos des Congolais. Je pense qu'ils sont bien mal inspirés. Hier, je crois, tous nos 8 collègues se sont réunis avec le vice-premier ministre et le ministre de la Défense pour confirmer ces mesures-là et prendre des mesures d'exécution, de contrôle et envisager des sanctions à l'endroit de ceux des fonctionnaires qui montreraient de la résistance. Un fonctionnaire n'a pas à résister à un ordre du gouvernement. Démissionner de votre fonction, ça n'a aucun sens. Ils vont simplement perdre leurs emplois et ils vont même, pour certains d'entre eux qui vont trop loin, aller en prison. C'est une mise en garde et un avertissement gratuit que je leur donne au nom du gouvernement dans ce qu'ils croient être un bras de fer. Ils n'ont aucune chance.
C'était là Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Maurice Nabaola, je rappelle que vous êtes rapporteur de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Pourquoi l'Assemblée provinciale du Bandundu s'oppose à la décision de l'arrêté interministériel sur la suppression des 38 taxes, entre autres la taxe sur le produit agricole?
Oui, merci Radio Capi. Je voudrais faire d'abord une mise au point en disant que l'Assemblée provinciale du Bandundu ne s'oppose nullement à la décision du gouvernement central, et notamment à l'arrêté interministériel supprimant certaines taxes. Nous considérons cela comme étant une ambiguïté simplement, peut-être un problème d'interprétation. Nous avons très bien lié cet arrêté interministériel. Nous pensons que dans les respects stricts des lois qui régissent ce pays et qui régissent les provinces, nous n'avons pas pensé que le gouvernement central puisse prendre des mesures qui frappent les provinces. D'autant plus que la province a des compétences qui lui sont révolues par la Constitution, notamment en lisant l'article 202 de la Constitution qui donne le pouvoir au gouvernement central, le pouvoir exclusif au pouvoir central, l'article 203 qui donne le pouvoir concurrent et l'article 204 qui donne le pouvoir exclusif aux provinces. C'est dans cet esprit que la province avait institué la taxe sur les produits agricoles qui est actuellement perçue par la Direction générale des recettes du Bandundu. Alors, ce n'est pas une opposition, mais nous voulions, par notre réaction, clarifier la situation parce que nous pensons qu'il s'agit d'un problème d'interprétation de cet arrêté interministériel.
Alors, vous avez suivi la réaction du gouvernement qui demande à tous ceux qui s'opposent à l'application de cette décision du gouvernement central d'arrêter et de ne plus percevoir cette taxe.
Oui, nous ne savons pas si... j'ai bien suivi le ministre des médias, que j'ai respecté beaucoup, que j'ai salué. Il faudrait absolument qu'on vulgarise et qu'on explique exactement l'esprit de l'arrêté interministériel. Parce qu'apparemment, ça prête à confusion et les gens ne comprennent pas exactement les taxes à quel niveau. À l'intérieur de la province, à l'entrée de la ville de Kinshasa ou à quel niveau. Donc il faudrait vraiment qu'on essaie de clarifier la situation parce que ça prête à confusion. Je crois que nous ne pouvons pas engager un bras de fer, mais il faudrait absolument, lorsqu'on prend des mesures, qu'on explique et qu'on les vulgarise pour que l'entendement soit le même partout.
Mais malgré cette ambiguïté dont vous parlez, vous avez quand même décidé de continuer à percevoir cette taxe.
Oui, en toute légalité, puisque l'édit numéro 003/2009 qui porte mesures d'application relatives aux impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la province, a été instituée en bonne et due forme et que nous ne voyons pas dans quelle mesure on peut empêcher à ce que cette taxe soit perçue, d'autant plus que nous l'avons fait dans la légalité.
Mais avant de prendre cette décision, est-ce qu'il ne fallait pas d'abord entrer en contact avec le gouvernement central pour pouvoir bien comprendre, pour bien interpréter cette décision?
Mais vous savez le préjudice que cela cause à la province lorsque, pendant tout un mois, cette taxe, une province agricole comme le Bandundu, en dehors de cette taxe, nous n'avons pas de mine chez nous. Nous n'avons que l'agriculture. Alors, lorsque pendant tout un mois, on ne perçoit pas cette taxe, on connaît ce que nous avons comme rétrocession de la part du pouvoir central. Or, l'essentiel des revenus nous viennent de cette taxe. Donc, si on interrompt, alors que nous n'avons pas trouvé d'inconvénient, c'est que la perception puisse se poursuivre. Alors, pourquoi nous avons demandé à ce que la perception de cette taxe puisse continuer.
Maurice Nabaola, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Selon Mouviri, à partir de Goma, province du Nord Kivu, la loi est dure, mais elle reste une loi. La province qui résiste doit être sanctionné puisque l'arrêté ministériel constitue une loi qui doit d'abord être exécutée. Les négociations pourront suivre après entre la province et le ministre national pour chercher un compromis. Mais avant tout, il faut que la province obtempère à la décision du ministre national. Si on veut qu'on soit obéi, il faut qu'on obéisse aussi aux autres. Et si la population qui doit payer la dite taxe opposée au gouvernement provincial récalcitra, ne voit-on pas un début de cycle et de mouvements, ainsi que des violences et des grèves des armateurs?
Que pensez-vous de la réaction de Pierrot Maté qui nous écrit de Goma, M. Maurice Nabaola?
Oui, j'ai bien suivi notre compatriote qui parle depuis Goma. Il ne s'agit pas pour nous de pouvoir organiser une résistance envers le pouvoir central. Je crois que ce que nous faisons au niveau de la province, notamment les édits que nous prenons, ces édits ont force de loi à l'intérieur de la province. Donc, nous ne voyons pas dans quelle mesure le pouvoir central, dans le respect strict des textes qui régissent l'État et les provinces, qu'on puisse empiéter sur les attributions légales des provinces.
Merci, M. Maurice Navaola. Daniel Boulungidi, conseiller fluvial et lacustre du ministre des Transports et Voies des Communications du gouvernement central. Quelle lecture vous faites d'abord de la réaction de l'Assemblée provinciale du Bandundu? J'estime qu'il y a ambiguïté par rapport à cette décision.
Non, je pense qu'il faudrait quand même qu'on arrive à faire un peu une certaine démarcation en ce qui concerne les attributions qui sont révolues au niveau des provinces et les attributions du gouvernement central. La gestion de nos cours d'eau, rivières, fleuves, tout comme lacs, relève totalement, constitutionnellement, du ministère des Transports et Voies de Communication du gouvernement central. Donc, nous ne pouvons pas chercher à nous mixer pour pouvoir mettre en place un système de perception qui régit l'exploitation de ce secteur-là. Si effectivement les décisions ont été prises, c'est parce que c'est dans le cadre des prérogatives qui sont revues et dévolues au niveau du ministère des Transports, au niveau du gouvernement central. Alors, si effectivement ils instaurent des taxes au niveau de ces secteurs, qui sont en dehors de la gestion courante de ce secteur par le ministère des Transports et Voies de Communication du gouvernement central, je pense que c'est quelque chose ce qu'on appelle un empiètement des responsabilités. C'est comme l'a dit son excellence monsieur le ministre de la communication, je pense que la loi est due, elle doit être appliquée. C'est peut-être il faut voir, parce qu'en principe, si le gouvernement provincial de Bandundu arrive à instituer cette taxe-là au niveau de la province, mais il faudrait le faire en amont, en dehors de tout ce qu'il y a comme gestion de l'exploitation fluviale et lacustre. Il faut le faire en dehors, si cette perception est faite, parce qu'il n'y a pas que le secteur de transport fluvial et lacustre, mais il y a aussi le secteur de transport routier. Il faut qu'ils aillent aussi faire cette perception au niveau de transport routier. Mais eux, ils se gangrènent, ils s'accrochent directement au niveau de la gestion des transports fluvial et lacustre. C'est là où, effectivement, les choses ne marchent pas. Donc, instituer une taxe par rapport aux responsabilités qui sont dévolues à la province, ils peuvent le faire, mais il faudrait pas que ça soit fait dans les installations portuaires pour commencer à percevoir chaque embarcation qui vient, par exemple, d'une province à une autre, bien d'un endroit à un autre, parce qu'il doit passer par le Bandundu. Impérativement, il faut percevoir une quotité sur les produits agricoles ou animaux. Mais là, ça devient pratiquement, c'est un peu instituer quelque chose qui va à l'encontre des attributions qui sont dévolues au niveau du gouvernement central, parce que ça, c'est de l'empiètement pur et simple. Mais si ce sont des taxes, parce qu'il ne faut pas seulement savoir que le transport n'est pas seulement le secteur fluvial, mais il y a aussi le secteur routier, mais il y a aussi le secteur ferroviaire, il y a aussi le secteur aérien. Donc si ces perceptions sont faites en amont, en dehors de nos ports, là, ils peuvent. Ça, c'est quelque chose qui reste
de la responsabilité. En dehors des ports, peuvent instaurer des taxes, mais pas dans les ports.
Pas dans les ports, parce qu'en principe, ce qui est constaté, c'est quoi? C'est que dans les ports, une embarcation qui vient d'ailleurs, qui passe par Dima au niveau du port de Bandundu, impérativement, vous êtes obligé de payer cette perception-là qu'ils ont instituée. Non, ça n'existe pas. Parce que là, ça devient maintenant de la tracasserie qui sont d'instaurer dans ce secteur-là.
Vous avez suivi le porte-parole de l'Assemblée provinciale qui a dit tout à l'heure que la province vit grâce à ces taxes-là.
Oui, mais il faudrait la faire en amont. Ce n'est pas dans le port, dans le secteur fluvial, l'exploitation, mais du secteur fluvial. Parce qu'il y a aussi des routes. Ils peuvent aller aussi, il y a aussi des véhicules qui vont, qui entrent dans le Bandundu. Ils n'ont qu'à percevoir ces taxes-là à l'intérieur, là-bas, par les services économiques de la province du Bandundu. Là, ils peuvent le faire.
Mais c'est depuis 2009 qu'on perçoit cette taxe dans la province du Bandundu.
Mais tout justement, c'est comme ça qu'on a décrit, on a trouvé que c'est de l'illégalité parce que la gestion de l'exploitation fluviale et lacustre du pays relève du gouvernement central. On ne peut pas imposer une perception dans ces installations portuaires qui relèvent du gouvernement central des perceptions qui sont, ce sont des perceptions qui sont illégales. On ne peut pas le faire parce que là, ça devient maintenant de l'empiétement pur et simple par rapport à ces attributions de la province.
Alors, on va prendre pour vous, M. Daniel Boulungidi, cette réaction qui nous vient de Mbandaka, l'Équateur.
Yannick Mbombo Ngoutou Teto, depuis la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. La déclaration des provinces est fondée car la mesure prise par les ministres est déclarée anticonstitutionnelle. Nous sommes dans la décentralisation où les provinces doivent s'autogérer et non dans la déconcentration comme par le passé. Si nous prenons par exemple la taxe sur les produits agricoles, qui permet aux provinces de gonfler leurs caisses locales. Aussi, nous nous référons ici à l'article 3, alinéa 3e de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi de 2011, qui dispose, je cite, « Les provinces jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. Il faut qu'une mesure gouvernementale soit profitable à tous, car le pays nous appartient. »
Réaction.
Je pense que c'est juste pour insister encore ce que je viens de dire.
Il y a quand même une confusion par rapport à l'interprétation du texte.
Voilà, c'est ça. Donc, il faut quand même qu'on arrive à comprendre que la province reste autonome dans la gestion de ses ressources. Elle peut imposer, elle peut faire des impositions sur les transactions qui sont au niveau de chaque province. Mais le secteur de l'exploitation fluviale et lacustre revient du droit constitutionnel du gouvernement central. Donc, personne ne peut venir faire une imposition quelconque dans l'exploitation de ce secteur sans pour autant avoir l'aval du gouvernement central par le biais du ministère des Transports et Voies de Communication.
Merci, M. Daniel Boulungidi. Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis. C'est un magazine économique des activités extractives. Vous êtes également analyste économique. Comment vous analysez cette situation?
J'analyse cette situation de la manière suivante. Je pars d'abord du principe que trop de taxes tuent la taxe. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de rationaliser les taxes parce que dans notre pays, il y a plusieurs taxes. Quand je vois les provinces qui réclament ces taxes, mais il faut qu'elles nous disent qu'est-ce qu'elles font avec l'argent récolté. Parce qu'une taxe est perçue en fonction d'un service rendu. Et donc, les bateaux traversent, c'est vrai, les cours d'eau qui sillonnent toutes les provinces. Mais il va percevoir cette taxe pour quel service? Quel est le service que la province va rendre à l'armateur? Ou bien voilà, c'est ça la question. Une taxe n'est pas un impôt. Une taxe est liée à une contrepartie qu'on peut palper, qu'on peut voir, qu'on paie. Donc quelque chose de réel. C'est ça le principe de la taxe. Ça veut dire que c'est un échange entre un service public rendu et contre une somme. Voilà, c'est ça le principe de la taxe. Et donc, ces provinces là-bas, je ne pense pas qu'elles soient fondées, justement, à percevoir ces taxes-là, notamment les taxes fluviales, parce qu'il n'y a aucune contrepartie. La gestion, comme on l'a dit ici, de cours d'eau relève du pouvoir central, parce que le travaux de balisage, le travaux de sécurisation. Et donc, il y a le travaux, par exemple, pour les ports privés ou les ports de l'État. Bon, les propriétaires de ports peuvent percevoir des taxes pour l'entretien d'accostage. Bref, il y a des services qui doivent être justifiés par les taxes. C'est toute la problématique. Donc, la problématique tout entière, c'est comment on fait en sorte que les provinces puissent avoir des ressources par rapport à leur développement. Ils doivent être plus imaginatifs. Mais je déplore aussi le fait que les cadres de concertation entre les provinces et le pouvoir central ne fonctionnent pas. À quoi sert la conférence de gouverneurs? À quoi sert le comité permanent des consultations économiques? Voilà, ce sont des institutions qui doivent servir à cela. J'ai vu, on a mis en œuvre la loi sur les finances publiques, qui détermine les prérogatives des uns et des autres. Il y a toute une nomenclature aussi en termes de taxes qui doivent revenir à l'État, les impôts qui doivent revenir à l'État, et aux ETD et aux provinces. Il y a toutes ces lois là-bas. Ils doivent se mettre d'accord dans des cadres de concertation pour qu'une fois...
C'est tout ça qui sème la confusion.
C'est tout ça qui sème la confusion. Et donc, les gouverneurs, aujourd'hui, c'est vrai, il est vrai que le rapporteur s'en prend, mais ce sont les exécutifs provinciaux qui sont mécontents, mais qui ne peuvent pas s'afficher parce que politiquement, c'est risqué. Et donc, il faudrait que nous soyons quand même un État mature. Si les gouvernements, les exécutifs provinciaux ne sont pas d'accord avec le gouvernement, l'exécutif national, ils doivent le faire savoir, ils doivent prendre des cabinets d'avocats et examiner de la légalité de l'arrêté interministériel. Il faut jamais aussi de doute quand même sur cet arrêté qui comprend 9 signatures de ministres. Je pense que la loi sur l'organisation du gouvernement ne prévoit pas un tel mécanisme. En cas de, s'il y a plus de 2 ou plus de 3 ministres, il faut un décret du Premier ministre. Donc voir 9 ministres à poser leur signature sur un document, ça pose problème sur le plan juridique. Il y a un autre problème qui est posé, c'est que nous sommes au mois de juillet. Ça veut dire que les provinces ont fait des prévisions budgétaires par rapport à cet impôt et taxes, et donc il faut des lois rectificatives de finances publiques. Et donc tout ça, il faut que les choses puissent être faites de manière rationnelle. Donc je comprends le souci du gouvernement central de rationaliser les taxes, je comprends la volonté des provinces aussi d'avoir des ressources propres, mais ils doivent être plus imaginatifs et explorer d'autres niches fiscales. Voilà un peu ma...
Et la province doit-elle continuer à percevoir cette taxe avant de se rencontrer ou avant de trouver un compromis avec le gouvernement central?
Non, une taxe, ça veut dire que si elle n'offre pas de contrepartie, et comme c'est un domaine qui est géré par le pouvoir central, non, elle ne doit pas percevoir. Elle est illégale, elle est illégale. Et donc, elles doivent prendre acte de ce fait-là et faire une loi de finances rectificative et revoir leurs ambitions à la baisse. Vous trouvez d'autres moyens pour financer le budget, c'est tout.
Alors il y a une réaction pour vous, Israël Moutalaï, qui nous vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud de Kivu. Je pense que les provinces qui continuent à prélever ces taxes n'ont pas du tout tort. De telles situations ne cesseront de se présenter tant que l'on ne sera jamais en mesure de distinguer les taxes relevant du gouvernement central de celles des gouvernements provinciaux. Autant dire que la définition claire des taxes et de leur champ d'application respectif s'impose encore.
Cet auditeur va un peu dans le même sens que vous.
Oui, tout à fait. Mais il y a tout, moi j'ai dit, il y a déjà la nomenclature. Il y a eu plusieurs ateliers ici à Kinshasa où les gens, le pouvoir central et les exécutifs provinciaux ont travaillé sur savoir qui taxer, quand taxer, quoi taxer. Il y a une nomenclature des taxes qui doivent être dues à l'État central et d'autres taxes qui doivent être dues aux exécutifs provinciaux. Il y a aux provinces. Il y a une autre loi. La nouvelle loi sur les finances publiques qui organise les compétences des uns et des autres. Il y a des compétences concurrentes, mais même en cas de compétences concurrentes, je crois que là, il y a des mécanismes, mais il y a des compétences exclusives. Sur les compétences exclusives des provinces, il n'y a pas de débat. Et donc, il n'y a pas de débat. Ici, il y a débat. Pourquoi? Parce que c'est une compétence exclusive du gouvernement central, à savoir la gestion des cours d'eau. Parce que j'ai dit, le travail de balisage, qui le feront, ce n'est pas la province. Quand elle perçoit un bateau qui quitte Kisangani, par exemple, c'est vrai. Je comprends parfaitement que la taxe d'embarquement ou la taxe de débarquement soit perçue en amont et en aval. Mais bon, ça passe par Bandundu, ça coste peut-être là-bas, mais c'est pas la province. Parce que l'argent qui est récolté par la province, elle sera affectée à quel service? Directement par celui qui a payé cette taxe. Parce que la contrepartie visible est directe, où est-elle? C'est pas un impôt, il s'agit d'un taxe. Ça veut dire que qui est rémunéré à partir d'un service qu'on donnait, que fournit la province. Qu'on nous dise, qu'est-ce que les provinces qui réclament cette taxe, quels sont les services qu'elles offrent en contrepartie? Il n'y en a pas.
Merci Israël Moutala, Maurice Nabaola. Vous avez suivi les analyses de Daniel Boulungidi, qui est conseiller fluvial et lacustre du ministre des Transports et Voies des Communications, ainsi que Israël Moutala. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Qu'est-ce que la province offre en contrepartie en imposant cette taxe?
Merci. De prime abord, je reviens sur ce que j'avais dit, Il s'agit d'un problème, je crois qu'il y a un auditeur qui a relevé, quelqu'un qui a relevé, c'est un problème. Parce que le cadre de concertation n'est pas vraiment exploité. Et la commission de concertation, même sur le, dans le domaine économique, n'est pas opérationnelle. Il y a aussi le manque d'attention vraiment au texte qui nous régit, notamment dans la répartition des compétences du pouvoir central et des provinces. Alors, je crois que nous avons tout intérêt à ce que le gouvernement central puisse expliciter le cadre dans lequel on a pris cet arrêté interministériel. Nous, par exemple, dans notre province, nous avons des voies routières, nous avons des voies fluviales et lacustres, et ces taxes ne sont pas instituées seulement sur les voies fluviales et lacustres, mais ces taxes sont instituées également sur les voies routières. Et ce sont des taxes qui sont, sont budgétisées, et ce budget est consolidé et approuvé et intégré au budget national. Alors, une mesure comme ça, il faudrait qu'on mesure les conséquences économiques, les conséquences que cette mesure implique sur les recettes au niveau des provinces. Donc, il s'agit d'un problème. Il faudrait absolument qu'on arrive à se mettre ensemble, qu'on soit en concertation, de manière à ce que les mesures qui sont prises puissent être comprises par tous de la même manière. Je crois que, brièvement, c'est de cette façon-là que je pourrais répondre. Je crois m'appuyer sur c'est que certains interlocuteurs ont dit ici que les provinces n'ont pas tort. N'ont pas tort de pouvoir réglementer les domaines qui sont les leurs. Parce que la Constitution répartit bien les compétences. Lorsqu'il s'agit dans un domaine comme celui-ci, je crois, lorsque nous lisons l'article 203, il y a des attributions qui sont concurrentes. Alors, il faudrait un cadre de concertation pour que quand on prend les mesures, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau des provinces, que l'entendement soit le même pour tous.
Merci Maurice. Merci Maurice Nabaola. Daniel Boulongui dit, cette taxe est déjà budgétisée. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences?
Mais je pense que quand le gouvernement central a décidé de pouvoir supprimer ces taxes, parce que en fait, c'est la première étape qui a été franchie déjà par rapport aux travaux qui ont eu lieu entre les armateurs et le gouvernement central à travers le ministère des Transports et Voies de Communication. On a en principe le travail global.
Les provinces n'ont pas été associées.
Non, il ne s'agit pas d'associer des provinces, mais il s'agit de vérifier la légalité de ce qui avait été perçu par au niveau auprès des armateurs. Les armateurs étaient anciens portuaires. Les armateurs ont exprimé leur ras-le-bol. Ils ont présenté dans leur cahier de charges, ils avaient présenté 59 perceptions qui étaient opérées sur le secteur fluvial. 59. Et nous avons travaillé ensemble avec les services concernés à partir des documents sous-tendus par ces travaux qu'ils ont présentés et qu'ils ont brandis auprès des services concernés. Et bien là, sur place, on a constaté que c'était, on a dit ça, c'est de l'illégalité. On a vu, par exemple, la DGDA. Vous vous rendez compte, la DGDA, il y a des bordereaux, la DGDA qui étaient opérés, ont versé, et puis tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu, on a dit que ça, c'est, on a vérifié, on a payé les services à partir de leur siège. Je dis non, ça n'existe pas. On met dans la poubelle pour dire que ça n'existe pas à supprimer. On va dans notre service environnement ou la DG ou la police, l'ANR, tout ça. On a vérifié, on a trouvé que ça, c'est de l'illégalité. On a dit on supprime.
Et malgré la décision du gouvernement de supprimer ces 38 taxes, elles continuent d'être perçues dans certaines provinces, et même ici à Kinshasa, par certains services. Non, donc, on n'a pas, l'application ne suit pas.
Non, vous savez que nous sommes juste au moment de la vulgarisation. Je crois que c'est à partir d'hier qu'on a remis officiellement ces documents.
Ah, donc c'était d'abord la période de vulgarisation?
Non, c'est-à-dire qu'on a pu promulguer. On a publié cet arrêté interministériel. Maintenant, on l'a remis officiellement auprès des services concernés. Parce que c'est chaque service concerné qui doit l'appliquer. Maintenant, je crois qu'on va passer ce qu'on appelle une campagne de vulgarisation où les gens, les missions vont être réalisées, exécutées à l'intérieur du pays pour essayer de conforter ensemble avec les provinces en quoi ça consiste. Parce qu'en principe, il y a ce qu'on appelle une certaine interprétation particulière.
Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par la vulgarisation?
Oui, tout justement, c'est ça. Parce qu'en principe, on l'a publié, ça date seulement du mois de juin.
Le 19 juin.
Nous sommes juste au début du mois de juillet. Donc, le temps qu'on a signé, qu'on ait commencé à les publier, à les remettre.
Il y a même des provinces qui n'étaient pas au courant de cette décision, ben, comme le Katanga, par exemple.
Donc, il y a une campagne de sensibilisation qui est prévue pour ça, et les missions vont aller à l'intérieur pour comprendre, pour avoir le même entendement. Parce qu'en principe, c'est comme venait le dire mon ami qui est avec moi ici, parfois c'est un problème d'interprétation, d'incompréhension. Moi, j'ai reçu des coups de téléphone, par exemple, du Bandundu. Je suis en contact pour le moment avec les chefs de division provisoire des transports, voies de communication de la province de Bandundu. Ils m'expliquent, je vois aussi la réaction des armateurs là-bas sur place, mais je les explique et ils comprennent effectivement. Ils disent oui, effectivement, il y a peut-être une certaine incompréhension de leur part pour comprendre, pour arriver à situer le problème. Mais le problème, c'est qu'on va aller à l'intérieur et là, on va exécuter des missions de sensibilisation, de compréhension pour que le gouvernement central et le gouvernement provincial aient le même entendement.
Alors, merci. En fait, une petite question avant de passer la parole à Israël Moutala. Il a évoqué le cas de la conférence de gouverneurs où le gouvernement central discutait avec le gouvernement des décisions prises au niveau central. Apparemment, ça n'existe plus, ça ne fonctionne plus.
Non, bon, le gouvernement, ça, je crois que ça, c'est quelque chose, c'est un cadre de concertation pour essayer de mettre en place une synergie proactive entre le gouvernement central et le gouvernement provinciaux. Ça, ça existe toujours. Ça, c'est organisé par le ministère de l'Intérieur. Et ça, je crois que ça, c'est quelque chose qui va être fait aussi incessamment parce que
mais
le ministère de l'Intérieur.
Pour ce genre de questions, je crois que c'était important quand même.
Le ministre de l'Intérieur est concerné aussi par la signature de cet arrêté. Donc, impérativement, je crois que incessamment, ça pourra se faire. Il va organiser ce genre de conférences pour essayer de réguler ou de donner l'information à suffisance au niveau des autorités provinciales.
Alors, Israël Moutala, cette décision a été prise depuis le 19 juin. Aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Il y a des gens qui continuent à percevoir cette taxe. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'a pas assez communiqué par rapport à ça?
Non, nous sommes dans un état où l'incivisme bat son plein. Ça veut dire que l'État est encore faible, ne peut pas, en un clin d'œil, faire appliquer sa mesure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je regarde deux semaines après, en principe, dans un État sérieux, tous les fonctionnaires de l'État devaient s'exécuter sans coup férir, sans discuter. Et donc, ceux qui auront à discuter ou à contester, ils doivent utiliser les voies légales, justement, un recours en inconstitutionnalité, ou bien, comment dirais-je, bref, il y a des voies légales pour cela. Mais il y a une chose que nos téléspectateurs, que nos auditeurs doivent comprendre ici, c'est que les taxes redondantes ou bien les taxes inutiles, on doit les élaguer pour améliorer le climat des affaires. Le climat des affaires, on l'améliore pas seulement pour les investisseurs étrangers. On les améliore d'abord et avant tout pour les hommes d'affaires congolais. Tous ces Congolais qui font du commerce dans nos cours d'eau ont besoin d'un climat des affaires sécurisant. Ils vont créer de la richesse pour eux-mêmes et les produits au finish qui seront sur le marché quinois seront à un prix abordable pour les Congolais les plus vulnérables. Et donc, l'ajuster de cette mesure, des taxes redondantes et inutiles, et des taxes illégales même, c'est de faire en sorte que un sac de foufou revienne à un prix abordable. Parce que les taxes, in fine, grèvent le prix de revient du sac de maïs ou du sac de manioc ou des haricots. Et donc, c'est une mesure sociale. Il faudrait que nous mangeons à notre faim et ça passe par la rationalisation des taxes. Donc, des taxes qui ne se justifient pas n'ont pas leur place dans notre système fiscal d'imposition. Et donc, c'est très important que le travail de la rationalisation des taxes, que toutes les taxes soient publiées, il faut qu'on réfléchisse sur la haute autorité de perception, tout simplement, qu'il soit un cadre, qu'il y ait une seule interface qui perçoit les taxes au nom et pour le compte de tout le monde, avec de quotité, parce qu'il y a trop de désordre dans ce domaine-là, et il suffit de vous rendre dans un de nos ports ici pour voir que c'est la foire.
Alors, il y a Donatien Kalonda de Lubumbashi au Katanga qui dit ceci. Nous saluons cette levée des taxes sur les produits agricoles, mais cela n'a aucun impact sur la pauvre population du fait que les prix de certains produits sont restés constants sur les marchés. Ça bénéficie à une certaine classe des hommes forts.
Non, justement, la mesure n'est pas encore entrée en application. Donc je pense que donnons le temps au temps. Si le gouvernement est sérieux, s'applique à mettre en œuvre cette disposition, il y aura certainement, très certainement, des conséquences sur le prix des denrées de première nécessité, parce que les armateurs ou bien les armateurs et tous les hommes d'affaires qui amènent dans les grands centres de consommation comme Kinshasa les produits agricoles verront que leurs charges vont baisser et vont répercuter ça sur leur prix de revient. Et mais là aussi, il faut que le ministère de l'économie puisse se veiller maintenant, qu'il voie justement la structure de prix de ces armateurs, parce que maintenant, elle est élaguée de certaines taxes redondantes et inutiles. Bref, donc, il y a tout un travail sérieux qui doit être fait par les structures de l'État.
Merci Israël. Maurice Nabaola et Amos Bissima de Bukavu au sud Kivu qui dit ceci. Comment comprendre de telles contradictions à l'égard d'un arrêté interministériel dans un État responsable à quand le respect des textes en RDC, une rébellion pour ces provinces ou une complicité des uns et des autres pour continuer à rançonner la population par ces taxes jugées illégales à travers lesquelles ils se sont depuis longtemps enrichis. Yohann Litanda Kofa lui dit ceci, il se pose une grande crise de compétences, personne ne sait où commence et finit son pouvoir, ses devoirs et ses droits.
Merci, madame la journaliste. Il ne s'agit vraiment pas de considérer la position de la province du Bamindu comme étant un refus de tempérer aux décisions du pouvoir central. Je le disais depuis très longtemps, d'ailleurs, je crois que notre interlocuteur de tout à l'heure venait de le dire, il s'agit d'un problème, il fallait déjà en amont. Avant de prendre cette décision, il fallait instaurer un cadre de concertation entre les provinces et le pouvoir central pour qu'on se mette d'accord. Parce que les prix sur le marché de Kinshasa, par exemple, ça ne vient pas seulement du fait que ces produits sont taxés à partir des provinces d'origine. Il y a aussi toutes les catégories qui entourent tous ces produits au niveau de la ville de Kinshasa. Il ne s'agit pas vraiment d'une opposition. Je me disais qu'il faudrait absolument un cadre de concertation pour que nous tous nous ayons le même entendement, parce que nous croyons que le texte que nous avions pris déjà depuis plusieurs années d'ailleurs donne droit à la province de pouvoir percevoir la taxe agricole, étant donné que notre province est une province agricole pratiquement sur le plan économique. Alors, il ne faudrait pas qu'on puisse croire que c'est un bras de fer que nous engageons, mais je crois que les hommes de loi nous écoutent. Par exemple, si nous prenons l'arrêté qui institue la brigade de l'État de Bamindu, l'édit qui institue cette brigade, c'est un édit qui a été pris dans la légalité, dans le respect de la Constitution et dans le respect des lois qui régissent notre pays. Cette taxe ne peut pas être jugée illégale, c'est une taxe qui est vraiment légale. Elle est perçue, et je dis que cette taxe est pratiquement l'unique taxe qui englobe près de 50% des recettes propres de la province. Donc, je crois qu'à notre niveau, il y a lieu de souligner cela, et que les conséquences peuvent être néfastes sur le plan économique au niveau de la province.
Merci.
Il y a un auditeur, je crois, qui faisait allusion à ce qu'on fait avec cet acte. Je crois que l'opinion se rappellera que la province de Bamindu a instauré le système de village agricole. Le village agricole ne fonctionne qu'avec les recettes propres de la province. Nous avons le CEPROCAM, qui est un service provincial pour l'entretien des routes de dessertes agricoles. Alors, toutes les recettes qui proviennent de cet acte sont en train d'être utilisés pour pouvoir arranger, pour pouvoir mettre les cantonniers et faciliter.
Merci Maurice Nabaola.
Merci Maurice Nabaoula. Je vous donne la parole tout à l'heure pour conclure. Daniel Boulungidi et à Maître Adrien Lobakoué de Kalanga au Kassai occidental qui pense que la province de Bandundu a totalement raison en qualifiant cet arrêté d'illégal. Il estime qu'il y a un abus, de pouvoir dans les chefs des autorités qui ont signé cet arrêté. Ils doivent les retirer carrément de la circulation.
Je crois que cette qualification qu'on donne à cet arrêté est un abus. C'est trop dur. Je pense quand même que le gouvernement central qui s'est réuni autour de 9 ministres pour essayer de signer cet arrêté, c'est pas venu comme ça, comme c'est tombé du ciel, comme ça, c'est que c'est un travail amont qui a été réalisé.
Il y a Israël qui a soulevé un élément important, ouais. Un arrêté signé par 9 ministres,
là n'est pas tellement de problème, parce qu'en principe, quand vous voyez 9 ministres peuvent signer 9 ministres cet arrêté, ça signifie une cohésion du gouvernement. C'est une cohésion du gouvernement parce que c'est tout le monde qui était impliqué. Hein, c'est une cohésion du gouvernement qui fait voir qu'effectivement...
Mais fallait que ça soit le Premier ministre qui le signe carrément.
Bon, c'est une façon aussi de voir les choses. C'est une considération.
C'est une innovation.
C'est une innovation, c'est ça. Nous sommes en train... C'est-à-dire que vous savez qu'il faut quand même développer ce qu'on appelle la proactivité. Une certaine synergie autour de membres du gouvernement. Deux ministres peuvent signer l'interministériel, 3, 4, 5, si effectivement le problème est récurrent et que ça concerne pratiquement tous ces secteurs-là, tous les ministres qui sont concernés par les secteurs. C'est normal qu'autour de ça, qu'on arrive quand même à voir un peu cette synergie de tout le monde. Mais je sais que dans tout ça, c'est quoi? C'est un peu devant une certaine innovation ou devant une certaine décision, il y a ce qu'on appelle toujours une résistance. La résistance est toujours là. Mais nous devons, c'est comme l'a dit un auditeur, nous sommes là, nous devons aimer notre pays. Quand on trouve effectivement que les choses ne marchent pas là où il y a et qu'on prend une décision, appliquons-le, parce que l'objectif dans tout ça, c'est notre population. Parce que la population qui a sa production... Vous avez votre sac de maïs ou de manioc qui quitte Kwamuntu, qui doit aller, je ne sais pas où, ça passe par les ports de Bandundu, et on doit percevoir quelque chose. Vous voyez que quelque part, c'est quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'en principe, d'abord, c'est du point de vue de l'égalité, c'est pas le secteur qui est devenu au niveau du gouvernement provincial. Mais si ça se trouvait, c'est une production qui est faite au niveau de Bandundu en amont, vous percevez, parce qu'il y a des services économiques qui existent. Mais quand c'est chargé à l'intérieur, là-bas, que ça vient d'un autre port, l'embarcation est tentée de passer là-bas au port de Bandundu, il dit, comme c'est un sac qui passe par ici, il faut nécessairement...
Alors, je vous demande aussi de conclure, Daniel Boulungidi, parce qu'il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Oui. Un mot, une conclusion.
Je pense que nous devons notre pays. Je sais que quand il y a une loi, il y a toujours ce qu'on appelle une certaine résistance. Mais le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle une campagne de sensibilisation qui va essayer de faire, qui va entrer dans les provinces pour essayer de créer cette synergie pour qu'il y ait un entendement commun, hein, qu'on comprenne que réellement ce qu'on est en train de faire, c'est pour le bien de la population, parce
merci,
que
Daniel,
nous voulons que ça soit fait,
la charge
d'exploitation de ces...
Merci, monsieur le conseiller. Merci Israël Moutala, en guise des conclusions, la crainte de certaines personnes est celle de voir cette décision ne pas être appliquée.
Oui, bien sûr. Rappelez-vous du décret du chef de l'État par rapport aux services qui doivent œuvrer au poste frontalier. Cette mesure n'est pas encore effective à tous nos postes frontaliers. Et donc, la faiblesse de l'État explique cela. Et donc, il faudrait travailler au renforcement de l'autorité de l'État pour que, quand une décision judicieuse est prise à Kinshasa, qu'elle s'applique sur tout l'ensemble du territoire. Mais il faut dire aussi que Kinshasa n'a pas montré l'exemple en termes de respect de la loi. Et donc, l'incivilité de Kinshasa rejaillit sur les provinces parfois qui ne respectent pas la loi, parce que beaucoup de gens à Kinshasa prennent des libertés avec la loi.
Merci Israël Moutala. Maurice Nabaoula, qu'est-ce que la province va faire maintenant? Elle va continuer à percevoir ou bien elle va arrêter?
Certainement. Heureusement que le conseiller qui est avec vous à côté venait de reconnaître que cette décision a été prise depuis bien longtemps, mais la vulgarisation n'est pas encore là. Nous pensons, nous, au niveau de l'Assemblée provinciale, depuis la date finie juillet 2014, la préfecture provinciale avait fait une recommandation à son excellence, monsieur le gouverneur de province, où on lui demande l'application stricte sur le site étendu de la province des dispositions de l'EDI numéro 003/2009 portant mesures d'application relatives aux impôts, taxes et redevances et autres droits dus à la province par la direction générale des recettes du Bandundu. Et de deux, la poursuite par la direction générale des recettes de Bandundu, la perception de la taxe sur les recettes sur les produits agricoles et de recouvrement des marchandises en tous les points de perception prévus à cet effet.
Merci.
Enfin, les respects par le ministère.
Merci Maurice Navaola, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, et Guy Maté, Alain Hung, Samuel Kachak sous la supervision de Pélé Kipela Mondo. Merci à Mimi Kindou qui est à la mise en onde au micro Kevin Côté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.